Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est le rappeur Gringe.
Par rapport à l'écriture, c'est évident qu'elle développe un imaginaire chez moi, un effort de curiosité qui me maintient en vie, quoi, intellectuel et puis psychique, et sans ça, je crève un peu. Moi, j'avale énormément de films et de séries, et je suis beaucoup plus cinéphile que je dévore de livres. Du coup, je sais qu'à chaque fois que j'en ouvre un et qu'il me happe, il y a ce truc de ce pouvoir d'immersion qu'on retrouve nulle part ailleurs.
On a découvert Gringe au début des années 2000 aux côtés d'un certain Aurel San. Ensemble, ils étaient les Casseurs Flotters, un duo de rappeurs qui a décroché 2 victoires de la musique et s'est donné la réplique à la télévision, dans la série Bloqué, puis au cinéma, dans le film Comment c'est loin. Quelques mois après le succès d'Enfant Lune, son premier album solo, Guillaume Tranchant, c'est son vrai nom, dévoile ses talents d'écrivain avec Ensemble, on aboie en silence, qui paraît chez Wagram Livre, HarperCollins. Le jeune quadragénaire y raconte sa relation complexe avec Thibaut, son petit frère, diagnostiqué schizophrène à l'âge de 21 ans, et dont l'artiste a mêlé les écrits aux siens pour donner naissance à un texte étonnant. Entre tendresse et révolte, espoir et nostalgie, Ensemble on aboie en silence raconte une tragédie familiale sans jamais tomber dans le sordide ou le voyeurisme. Grâce à sa forme habile et percutante, il offre même un regard inédit sur une maladie encore mal connue du grand public.
Bonjour Guillaume, je peux vous appeler Guillaume ou vous préférez Gringe ?
J'ai aucune préférence, je pense que la limite est vraiment très fine entre les deux.
Qui vous appelle Gringe, qui vous appelle Guillaume ?
Tout le monde m'appelle Gringe, il n'y a plus de bout d'un moment. Je pense que ma mère se retient de m'appeler Gringe.
Même votre mère ?
Non mais...
Elle ne dit pas Gringe, viens à table.
Elle ne dit pas Guillaume et les garçons et Guillaume, venez à table. Elle a pu le dire, ça, petit. Elle a pu me le dire, ouais. Mais elle ne me le dit plus aujourd'hui.
Elle ne vous le dit plus aujourd'hui, parce que vous êtes un grand garçon.
Je suis un grand garçon de taille, je fais 1m87. Mais est-ce que je suis un grand garçon fondamentalement mature et de mon âge ? Je ne crois pas. Je suis toujours très, très en décalage.
Alors en décalage, vous êtes un jeune écrivain, vous faites partie des votre livre Ensemble on aboie en silence fait partie des livres des premiers romanciers de la rentrée, on va dire. Voilà, c'est vous passez à l'écriture, mais l'écriture c'est un domaine que vous connaissez bien en tant que musicien, en tant que rappeur. Est-ce qu'on peut dire que je vous provoque un tout petit peu Gringe, est-ce qu'un rappeur c'est un écrivain qui s'ignore ?
Certainement, si tant est qu'il ait des talents d'écrivain, mais enfin, je pense que toute personne qui s'ignore, c'est difficile à dire, en plus de difficile d'avoir ce recul-là et de se définir soi-même et de définir son art et de jauger de ses propres qualités. Je pense que j'ai une gymnastique maintenant bien assimilée dont je sais me servir, une espèce de muscle sur lequel je peux tendre et détendre quand j'ai besoin d'écrire. Maintenant, je suis un piètre lecteur. Je suis très lacunaire, surtout sur la littérature classique. Il y a plein de choses qui m'échappent, donc je me rattrape, je comble un peu mon retard sur les lectures qu'on m'offre. Je suis toujours curieux. J'ai même pas envie de dire modeste auteur, parce que je sais pas ce que ça vaut d'un point de vue littéraire. Je sais juste que le récit, le biais qu'offre le récit littéraire pour s'exprimer est incroyable. C'est un terrain de jeu que je découvre et que je trouve fantastique, qui m'offre un champ des possibles beaucoup plus large et vaste que l'écriture rap.
Pourtant, on peut dire que la musique, les albums que vous avez pu faire à plusieurs ou en solo, c'était pas des concept albums, ça raconte toujours une histoire. Et ce livre, c'est un peu le prolongement d'Enfant Lune. Il y avait une chanson qui parlait de votre frère, déjà, Scanner. Est-ce qu'on peut dire que, voilà, c'est un prolongement littéraire de votre travail musical, ce premier livre ?
Certainement, ouais, qu'il y a des accointances avec ça. Il y a une continuité. Après, j'ai pas le truc qui le frein, ou en tout cas que je me suis mis, ou là où j'avais pas envie d'aller, c'était de basculer dans un bouquin clinique et empirique sur des données, des statistiques sur la schizophrénie, ça m'intéressait pas. Je crois que j'avais envie de conserver une écriture très orale, comme je fais avec le rap. Et que dans Scanner, j'essaie de filer un espèce d'instantané, de rendre quelque chose d'un peu organique et d'immédiat, quoi, dans les images que je balance. Là, c'est pareil. Sauf que là, j'ai un terrain de jeu beaucoup plus élargi, et du coup, je peux m'amuser à varier un peu le ton, je peux aménager aussi le rythme et l'accélérer quand j'en ai envie. Mais ce que je voulais, c'était garder une écriture hyper imagée, quoi.
Ça veut dire que vous avez un petit peu des références plus musicales d'autres artistes que d'écrivains quand vous vous mettez à l'écriture. Vous êtes un petit peu en terrain, vous êtes un peu dans l'expérimentation, c'est un peu une version longue de ce que vous faites. Est-ce que malgré tout, vous avez des références littéraires dans un coin de la tête ?
Ouais, j'en ai quelques-unes, bien sûr. J'en ai quelques-unes. Après, dire jusqu'où elles m'influencent et à quel point elles orientent ma façon d'écrire ou de fabriquer des images, je sais pas dire, mais il y a des écrivains, des écrivaines qui m'ont marqué, ouais. Je peux aller d'un Bukowski à une Dépente, et puis on a des, je pense avec mon frère aussi, on a des auteurs, des références communes, Dan Fante, John Fante, on a des, jusqu'où ça peut influencer, j'en ai pas la moindre idée, quoi. Et c'est pareil dans le cinéma, en vérité. Avec mon frère, on partage des références communes et des plaisirs communs de cinéma. Cinéma italien, par exemple. Moi, je suis très sur Sorrentino. J'aime énormément son côté baroque, foutraque. En même temps, hyper onirique. La musique au centre aussi de ses œuvres. On aime énormément Lynch, la manière dont il distord le temps, dont il arrive à... Et ça, c'est quelque chose avec mon frère dans lequel on se retrouve totalement. Certains des films de Lynch... Lost Highway, pour ne citer que lui, quoi. Je veux dire, on est sur une thématique qui nous est chère, moi et mon frère.
Ah, grâce à mes sœurs, je crois que c'est mon film préféré, Lost Highway.
C'est pas loin d'être il est dans mon top 5 aussi, quoi. Ouais, c'est un très grand film. Donc oui, influencé par des, évidemment. Après, je fais pas de name dropping et je paraphrase pas. Et quand j'écris, avec la matière que m'offre mon frère, j'ai déjà une matière. Si j'étais un Lynch moi-même, un David Lynch, avec la matière que m'offre mon frère, je pourrais faire un film incroyable. Donc j'ai toute la matière déjà dont on rêve de disposer pour écrire. J'ai déjà tout ça, quoi. Après, je pétris, je brode à partir de ce qu'il me dit et je fabrique.
Mais c'est vrai qu'en lisant votre livre à tous les deux, hein, on va en parler un petit peu dans le détail, mais moi, j'ai imaginé le film. J'ai imaginé notamment, évidemment, toutes les séquences un peu onirique, voire psychédélique, les espèces de fugue mentale de votre frère, on les imagine très bien dans un film. Alors, faut qu'on explique un petit peu ce projet littéraire, parce que donc c'est pas un roman, c'est un récit à deux voix qui parle de la schizophrénie de votre frère, de votre rapport à cette maladie qui a peut-être pas détruit, en tout cas abîmé votre relation pendant un certain temps. Comment est-ce qu'on en vient à écrire à créer ce projet comme ça, vraiment original ? Est-ce qu'on est venu vous chercher ? Et est-ce que lui et vous avez hésité à le faire ?
Alors moi, j'ai pas hésité une seule seconde. Lui, tout l'inverse. De toute façon, on avançait à sens contraire, lui et moi, quasi en permanence, tout le long du processus d'écriture. On est venu me chercher. C'est Harper, deux maisons d'édition... HarperCollins et Wagram Livres qui se sont associés et qui m'ont proposé ce projet d'écriture. Je pense qu'ils avaient vu... Il avait été question d'une interview dans laquelle je parlais de mes références littéraires et de celles de mon frère et du fait que mon frère ait cette pathologie-là. Du coup, ils m'avaient proposé de démarrer à partir de ça, quoi. Et tout de suite, moi, je me dis oui, parce que je sais déjà les textes que mon frère a de côté, pour en avoir lu certains, parfois sans son accord. Et je trouvais ça brillant, je trouvais ça hyper cynique. Et en même temps, ça donnait un regard à voir sur l'univers psychiatrique et l'univers mental de mon frère incroyable. C'était une plongée au cœur du sujet, quoi. Donc ça m'intéressait. Pour ça, il fallait convaincre Thibaut, mon frère. Ce qui m'intéressait, c'est aussi de porter un regard de grand frère sur nos deux trajectoires et de me questionner, en tout cas d'essayer de nous revivre, lui et moi, pour me dire, comprendre ce par quoi on était passé, ce qu'on avait traversé, pour mieux nous comprendre et me comprendre aujourd'hui. Je voulais mélanger les voix, quoi. Parler de schizophrénie, en faire un sujet quasi central en mélangeant les voix. Je trouvais déjà le concept drôle. Je trouvais ça malicieux. Et si je pouvais fabriquer un labyrinthe qui serait la projection de celui que j'imagine être dans la tête de mon frère, dans lequel abandonner le lecteur et la lectrice, quoi. Ça m'amusait. Voilà, j'ai construit un dédale et puis laisser les gens se démerder avec ça, hein, et savoir qui parle, quand, pourquoi, qui dit quoi.
Par moments, c'est vrai qu'on se met à relire, on se dit, mais c'est lequel des deux qui parle là, qui est le plus perdu dans l'histoire.
Ouais, hein, ouais. Ouais, de temps en temps, il y a quand même quelques outils de compréhension qu'on donne. Par exemple, les passages, les fragments écrits par mon frère, datés, d'il y a 10-15 ans, on a décidé de les mettre en italique, pour bien comprendre que c'était lui qui s'exprimait et sur une époque datée, révolue. Après, il y a des textos qui m'envoient de temps en temps, donc j'ouvre les guillemets et on comprend que c'est lui qui parle. Et puis parfois, ouais, il y a ma voix, moi, qui m'exprime à la première personne, et qui suis la voix du narrateur. Et puis parfois, j'emprunte la voix de mon frère pour raconter ses voyages, et là, je continue d'être narrateur, mais à la place de mon frère. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que les gens se demandent mais qui parle, et il faut lire, en fait. Il faut lire, aller au bout d'un fragment quand on a un doute, pour réaliser à la fin
que c'est vous ou c'est lui.
Moi, ouais.
Qui a eu le final cut sur le livre? Est-ce que c'est complètement vous, à un moment donné?
Je crois que c'est lui. Hein. Il a réussi à me coller une pression psychologique, à me la maintenir jusqu'à ce que le bouquin parte à l'impression. Mais il était question, encore 2-3 jours, je pense même que certains fragments, chapitres étaient partis à l'imprimerie, à l'impression, et il négociait toujours pour récupérer encore des textes dont il n'était pas sûr qu'il avait envie de les partager, ou juste bouger une virgule à un endroit, ça l'obsédait. Donc il fallait que je le rassure, et puis à un moment donné, que je le rassure et que je contienne aussi ma colère, quoi. Il y a un moment, j'avais envie de lui... Ça me faisait chier, quoi, mais en même temps, c'était ses trésors, quoi.
Et vous les confiez, donc il fallait
les confier. Il fallait que j'en sois garant et bon garant et que je fasse pas n'importe quoi avec. Mais du coup, voilà, jusqu'à la dernière minute, j'ai été un peu conditionné par le stress et le est-ce que mon frère va vouloir tout récupérer d'un coup à la fin, quoi. Alors que j'avais construit tout mon récit autour de ça, quoi.
En tout cas, vous aviez fait des copies au cas il efface tout.
Ouais. Ben, j'aurais pu y penser, mais même je pense que je l'ai vécu dangereusement, du coup, ça. Hein.
Il n'y a pas de sauvegarde.
Non.
Cringe, ce podcast s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux ». C'est un passage obligé pour tous les invités. Je pense que... Alors, on peut en parler par rapport à ce livre-là en particulier et par rapport à la lecture en général, mais déjà, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que les gens qui lisent sont plus heureux, d'après vous?
Ouais. Bon, de manière hyper intuitive, je vous réponds par l'affirmative sans hésitation. Ouais. Ouais, parce que c'est une manière, je pense, de... C'est la victoire de l'imagination, quoi. C'est ce truc de le pouvoir de la suggestion, des mots, de la manière dont on s'approprie les histoires, dont elles font écho avec les nôtres, les images qu'on y plaque. Être lecteur ou auteur, quoi... Je pense que c'est comme pour tout, j'ai tendance à penser, je vais faire une phrase un peu cliché, mais que pour poser une expertise sur un sujet, il faut quand même le connaître, quoi. Et en tout cas, l'avoir expérimenté soi. Et par rapport à l'écriture, moi c'est évident que elle développe un imaginaire chez moi, un effort de curiosité qui me maintient en vie, quoi, intellectuelle et puis psychique, et sans ça, je crève un peu, quoi. Et je pense que c'est idem pour un lecteur, averti ou non, pouvoir des mots, et puis ce truc de, contrairement à... Je suis quand même un gros passif, enfin un gros feignant, du coup, j'abale énormément de films et de séries, et je suis beaucoup plus cinéphile que... que je dévore de livres, quoi. Du coup, je sais qu'à chaque fois que j'en ouvre un et qu'il me happe, il y a ce truc de ce pouvoir d'immersion qu'on retrouve nulle part ailleurs, quoi. Donc oui, oui, ça rend plus heureux, certainement.
Très et celui-là en particulier, Ensemble, on aboie en silence, il doit rendre heureux, je pense, non ? Il doit aider beaucoup de gens.
Il fait du bien pour l'instant, de ce que je. Des retours qu'on m'en fait. C'est assez merveilleux. C'est pas des choses qu'on anticipe au moment où on écrit, puis on écrit des coffres, des morceaux, des bouts de nous et de nos histoires. Et je le fais moi aussi. La démarche, elle est aussi un petit peu réparatrice, quoi. Je le fais pour comprendre et penser de certaines de mes plaies. Et pareil chez mon frère. Mais il y a un truc qu'on n'anticipe pas. D'ailleurs, à la fois chez mon frère et chez les gens qui découvrent le livre. C'est ce pouvoir un peu salvateur de quand on lève le voile et quand on met en lumière quelque chose qu'on cherche en temps normal à conserver à l'écart et dans l'ombre le plus loin possible de nous. Donc il y a des gens qui viennent quand je fais des petites séances de dédicaces, que je vais à leur rencontre, qui viennent qui me pleurent dans les bras parfois, qui me racontent en quoi ça les a touchés, en quoi ça les a aidés, en quoi c'est utile.
C'est un rapport presque plus fort que celui que vous pouvez avoir avec des gens qui aiment votre musique.
C'est différent. Je ne sais pas si c'est encore plus fort. Certainement, parce qu'on touche à quelque chose qui touche à l'intimité des gens qui connaissent cette pathologie. La manière dont ça dévaste la personne qui en souffre et l'entourage. Il y a quelque chose, je pense, quand on en parle avec des mots justes, et j'ai pas la prétention de maîtriser ce qu'est la schizophrénie, mais en partant de mon expérience et celle de mon frère, je pense que je suis capable de porter un regard distancé, juste, sur ce que je parle, ce dont je parle, et sans complaisance, et sans essayer de tirer des larmes et d'en faire quelque chose de... des magots. Donc je pense que les gens, ça les touche de plein fouet. À ce point-là, je l'avais pas anticipé. J'en suis ravi. Si ça peut faire du bien, j'en suis ravi. C'est le fameux pouvoir salvateur des mots et guérisseur, parfois. Voilà.
Alors cette expérience-là, qui commence tout juste, est-ce que vous sentez déjà au moment de l'écriture, est-ce que vous vous êtes dit, j'aimerais bien continuer à faire ça, j'aimerais bien même écrire de la fiction, peut-être, je sais pas, moi, des thrillers ou n'importe quoi, mais j'aimerais bien creuser un peu ce sillon. Est-ce que ça a ouvert des nouvelles portes pour vous, pour la suite ?
Ouais, des envies, c'est certain. On s'en parle avec mes éditrices, mes éditeurs. Est-ce qu'il y a un roman ? Est-ce que ça te tenterait ? Qu'est-ce que ce serait ? Quel registre ? J'ignore totalement, mais je pense que ça va aller de pair à un moment donné. Je le sens monter crescendo en moi. Ça va aller de pair avec une envie de voyager, de me barrer le plus loin possible, d'aller explorer, quoi. Et je pense que la lecture m'accompagnant partout, de toute façon, il y aura ça. Et là, je pense un Joe Nesbo, par exemple, même si je suis absolument pas familier du roman noir et du polar, j'ai pu lire des bouquins de poche et ça se dévore, en fait. Il y a une écriture à la fois hyper simple et en même temps complexe, enfin dans une construction de l'intrigue qui peut paraître pas savante, mais il y a une complexité dans les personnages. Ils ont toujours des caractéristiques atypiques.
Vous savez que Joe Nesbo était musicien et musicien.
Non, j'ignore tout de ce spectre.
Ouais, regardez un petit peu, il a un groupe de rock, c'est quelqu'un qui vient de la musique, et qui était d'abord connu pour
Il a une science, on peut parler de musique aussi pour la littérature, il y a une musicalité dans les mots et dans le rythme qu'on fabrique. On peut entendre une musique, quoi. Il y a un truc. Joe Nesbo, il y a ça, quoi. Et je ne sais plus. En plus, j'ai plus les titres de ces bouquins en tête. J'en ai lu 2-3. Et à chaque fois, je les dévore. Et je me dis, c'est vrai que c'est un genre, quand il est maîtrisé, qui est incroyable. Donc oui, je sais pas. Fabriquer des fictions, ce serait bien à un moment donné. En plus, que j'essaye de m'éloigner maintenant. Je pense que je commence à avoir fait le tour de la thématique. en tout cas familiales, ouais. En tout cas des thématiques de l'intimité, de ce que je suis, quoi. Est-ce que ce serait pas l'étape d'après, quoi, ouvrir une autre
porte. Faudrait inventer un personnage récurrent. Jonas Beau, pour ceux qui connaissent, c'est son flic Harry Hall. Ouais. Et c'est vrai qu'à travers les romans, certes, il y a toujours des enquêtes, toujours des meurtres, toujours un ou plusieurs tueurs un peu glauque, mais c'est sa vie à lui qui est pas drôle, et c'est ses problèmes à lui, et souvent et à la limite peut-être que vous pourriez vous inspirer de votre frangin pour recréer un personnage.
À partir de discussions comme celle-là, c'est vrai que ça peut tout de suite éclaircir des choses, et c'est vrai,
un personnage qui serait légèrement schizophrène, vous voyez. Ça serait pas totalement invalidant, mais comme votre frère fait des choses dans la vie,
puis il a tellement de caractères et de particularités autres que son don, son pouvoir d'entendre et de voir l'indicible, que je pourrais mettre l'accent sur des particularités de mon frangin, totalement singulière. Et...
Vous avez vu True Detective,
ouais, bien sûr, voilà, bien
dans
sûr.
La première saison, le personnage joué par Matthew McConaughey, il a dit la division aussi.
C'est vrai. Il a des épisodes de dissociation, de drogue. Puis il est quand même. Alors je pense que c'est des réminiscences, lui, de ces périodes toxicomanes et tout ça, mais il a un pouvoir, quoi. Ou une hypersensible sensorialité. Il est incroyable. Enfin, le personnage True Detective, c'est une des séries. Pour le coup, on parlait du polar et du roman noir. True Detective, c'est magistral, quoi.
La première saison, d'accord.
Simplement la première saison. Ouais. J'ai vu la troisième.
C'est vrai que c'est mieux. Parce que la deuxième était catastrophique.
C'est nettement mieux que la deuxième. Et je me semble que c'est le même réal en plus, si je ne dis pas de bêtises.
Mais en fait, c'est le même auteur qui a tout créé. Ouais. Il y a pas mal d'histoires comme quoi il avait un petit peu de mal à recevoir les conseils de son entourage pour la deuxième saison. Et que pour la troisième, on lui a dit soit tu prends des scénaristes qui vont t'aider, soit on arrête tout.
Ouais.
C'est vrai que parfois aussi à la télévision, vous connaissez l'univers de la télévision, un petit peu, mais des séries, mais on n'est pas aussi libre que quand on écrit un roman.
Je pense que c'est effectivement, alors ça, je le sais, parce que je l'ai entendu, mais je le vis pas, quoi. Je suis pas, je connais peu de gens qui bossent qui produisent pour la télévision des séries. Je pense qu'il y a un cahier des charges qui est jamais
le même.
Il y a un truc à respecter. Ouais. On est moins libre. Qu'au cinéma. Et en même temps, maintenant, les séries la série permet de développer ou ce que ne pourrait pas offrir le format d'un film, de développer plus. Et, ce qui était génial dans True Detective, par exemple. Il n'y avait pas tant d'épisodes que ça, mais la construction narrative est incroyable, ne fait que monter la complexité de ces deux personnages-là, l'ambiguïté quand je dis la complexité, c'est pareil, le personnage habité par leurs démons respectifs, puis cette figure du monstre incroyable, enfin, c'est génial, c'est vraiment génial, je trouve.
Alors Grinch, pour terminer, j'aimerais vous interroger sur un sujet qui a longtemps fait parler les rappeurs, avoir 40 ans. Est-ce qu'on peut encore être rappeur à 40 ans? Certains l'ont prouvé plus ou moins, mais la question que je voudrais plutôt vous poser, c'est être un rappeur à 40 ans, est-ce que c'est cool?
Bah moi, je me vois pas, enfin, je sais pas si ça l'est, parce que je me considère pas vraiment comme un rappeur. Non, vraiment, j'ai du mal à me dire, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui rythme ma vie, quoi. Je passe pas mes journées à écrire du rap, à en écouter. C'est des épisodes. J'ouvre des parenthèses quand ça me prend. C'est des envies un peu fulgurantes. Faut que je me dépêche d'écrire, d'écouter du son. Mais
c'est une forme d'écriture. Ce que vous me dites, c'est que c'est une forme d'écriture. C'est une forme d'écriture.
Ouais.
Et qu'au fond, elle a pas d'âge. On peut être rappeur à 18 ans, à 40 ans, à 60 ans.
On peut, bien sûr. Après, j'ai quand même conscience d'un truc. Et encore une fois, ça faut connaître le rap, vraiment connaître l'histoire du rap, savoir comment ça fonctionne, connaître les acteurs depuis les débuts, en maîtriser les codes. C'est hyper codifié. Ça reste une musique qui doit, qui apporte quelque chose de novateur et de singulier, de si fort que c'est pour ça qu'elle marche si fort, c'est qu'elle est directement connectée, c'est un miroir de nos sociétés, un reflet direct à l'instant T quasi de nos sociétés. Du coup, quand on est jeune, qu'on a 20 balais, qu'on est nihiliste, qu'on prend des risques, qu'on est rebelle, qu'on est en plus dans des espèces de gymnastique de l'esprit. Enfin, c'est des petits mecs qui sont tellement brillants aujourd'hui dans l'écriture et qui aussi dans l'urgence qu'ils apportent sur scène et dans l'écriture, que je me dis que oui, c'est pour moi, mais c'est mon avis, quoi. C'est à 40 ans, on tente autre chose, peut-être. On peut garder, conserver une écriture rap, mais tenter autre chose, dans la forme, en tout cas. Moi, je ne pourrais plus faire ce que font les mecs de 20 ans aujourd'hui, puis j'en ai pas envie.
Et comédien, c'est un job qui vous... Alors, j'en parle parce que ça, j'étais assez amusé du passage où votre frère donne son avis sur votre prestation dans Carbone. Vous pouvez peut-être en dire un mot, mais il est moyennement convaincu et il a ses mots à lui pour vous le dire. Est-ce que comédien, c'est un truc aussi que vous sentez que vous allez pouvoir développer encore dans l'avenir ?
Ça, c'est un mystère. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Après, le milieu tel qu'il est, du cinéma, fait que si à un moment donné on s'en éloigne un peu trop et un peu trop longtemps, on passe vite à quelqu'un d'autre. Mais j'aimerais bien, effectivement. Ça fait un petit moment que j'ai plus tourné, parce que j'ai bossé sur ma musique et puis là sur le bouquin. Mais ouais, je suis toujours attiré par le jeu et par cette musique collective qui propose ça, quoi, le cinéma. Et pareil, toujours de me décentrer un petit peu de moi. C'est toujours des personnages que j'embrasse qui sont jamais trop loin non plus de ce que je suis, mais qui me permettent quand même d'explorer autre chose et d'aller ailleurs.
Et qui font dire les mots des autres.
Bien sûr, ouais. Ouais, mais ça, c'est... effectivement. Et du coup, mon frère qui me dit, quand il découvre Carbone la première fois, qu'il a pas aimé le film, puis il a pas aimé me voir, puis qu'il m'explique pourquoi, mais ça reste ambigu. Il me dit, mais... J'ai l'impression que t'avais une gueule déformée, que les mots sonnaient faux dans ta bouche. Je voyais un clown à qui on infligeait des punitions. Donc un truc hyper humiliant quand il m'en parle.
Oui.
Et puis il me dit, puis en plus, j'ai pas trouvé le film très bon. Putain, je fais Thibaut, on a maté tous les Marshall ensemble. C'est la première fois que t'as un Marshall que
t'aimes pas.
Ouais, c'est très étrange. Et il finit par me dire, ouais, mais de toute façon, j'avais pris de la coke il y a deux jours avant. Et je pense que je me faisais un gros bad trip. Voilà, ça c'est mon frangin. Donc je prends pas ce qu'il me dit pour argent comptant à ce moment-là, mais c'est dans le livre, fascinant la manière dont il me, et en un texto, hein, quand je lui demande pourquoi t'as pas aimé me voir, et là qu'il m'explique en un texto, qu'il développe un peu, c'est fascinant. Mais ça, faut donner aux gens envie de le découvrir, hein, de le lire. Je raconte pas ce qu'il me dit, mais c'est fou.
En revanche, l'écrivain que vous êtes, il est fan.
De mon frère ou de
Lui, en tant qu'écrivain, il apprécie, il a aimé le livre.
Ouais, Thibaut. Ouais, complètement. Il a aimé. Mais ça, c'est pareil. C'était une grande, grande crainte. Il a tellement hésité à. Si peu engageant sur l'écriture que je me disais, bon, j'ai quand même réussi, je pense, à emmener le projet au bout. Mais une fois qu'il sera sorti, une fois qu'on va en parler un peu et une fois qu'il sera sorti, quoi, que son histoire va sortir, comment est-ce qu'il va le recevoir ? S'il n'a pas décidé de me faire la misère, ou de couper les ponts, ou de... J'avais peur de ça. Mon frère, ça reste la douane, le péage, en amont du bouquin, avant que je me lance sur l'écriture, et à l'arrivée aussi. Et j'ai été entendu par la clémence. Il m'a expliqué qu'il avait trouvé le bouquin très poétique et conforme à ce qu'il avait pu me raconter.
Je vous remercie, Gringe, et je vous dis à bientôt pour votre premier roman de fiction, hein, votre polar, à la Jeunesse-Beau ou pas, à la Trou Détective ou pas, mais je pense qu'on aura hâte de le lire.
Tu seras le premier à le savoir si je me lance là-dessus. Merci de m'avoir accueilli.
Merci, à bientôt, au revoir.
C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux. C'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture !